Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal présenté par Noël Alizée Toukabambi.
% de la population de l'Ituri, soit plus d'un million de personnes affectées durant l'année dernière par la double crise sécuritaire et humanitaire qui secoue cette province depuis quelques années. C'est MSF qui le dit dans un rapport publié hier à Bunia. L'ONG Médecins Sans Frontières se dit inquiète de l'intensification de cette crise à cause aussi de la suspension des financements de certaines organisations humanitaires. 10 chefs d'antenne de l'inspection générale de la police dans 10 provinces qui en étaient privées. C'est pour veiller au respect des droits humains lors des opérations policières. Ces inspecteurs ont une semaine pour rejoindre leur nouveau poste, a dit hier à Kinshasa le commissaire divisionnaire principal de la PNC, Patience Mouchidiave. Docteur Daniel Okitundu, médecin directeur du centre neuropsychopathologique de Kinshasa, est l'invité de Radio Okapi ce matin. À l'occasion de la célébration des 50 ans d'existence du CNPP, il fait un état de lieu de cette importante institution sanitaire. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. Plus d'un million de personnes ont été affectées en 2024 par la double crise sécuritaire et humanitaire qui secoue l'Ituri depuis ces dernières années. C'est environ 18% de la population totale de la province. L'ONG Médecins Sans Frontières, MSF, a dévoilé ces chiffres hier à Bunia lors de la présentation de son nouveau rapport de plaidoyer intitulé « Risquer sa vie pour sauver des vies ». MSF dit s'inquiéter de l'accentuation de cette crise, notamment à cause de la suspension des financements de certaines organisations humanitaires. Ezekiel Mouzalia.
Dans sa présentation, le chef des missions de Médecins Sans Frontières dresse un tableau sombre de l'impact de la situation sécuritaire sur les interventions humanitaires en Ituri, secouées par l'activisme des groupes armés. C'est entre autres dans les zones de santé d'Angoumou, Drodro ainsi qu'à Bunia où cette organisation apporte en même temps un appui humanitaire et sanitaire aux personnes affectées par la guerre. Outre cela, ce rapport cite des témoignages des victimes des violences sexuelles, des déplacements continuels des populations, mais aussi les obstacles d'accès aux zones d'intervention. MSF alerte la communauté internationale ainsi que d'autres organisations humanitaires sur la dégradation croissante de la situation humanitaire et sanitaire en Ituri. Alira Alidou, chef des missions MSF en Ituri.
Médecins Sans Frontières se doit d'alerter pour éviter que l'Ituri ne tombe dans l'oubli dans ce contexte où l'Est de la République démocratique du Congo traverse une crise profonde. Attirer l'attention des bailleurs de fonds sur les conséquences des coupes budgétaires et les implications sur les personnes les plus vulnérables.
MSF demande au gouvernement congolais de s'assurer pour que le droit international humanitaire soit respecté par toutes les parties en conflit en province. Bunia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Une situation catastrophique, c'est ainsi que sont qualifiées les conséquences inhérentes à la fermeture des banques à Goma et Bukavu, deux villes de l'est du pays sous occupation du M23. Cette situation ne cesse de provoquer des conséquences négatives sur tous les plans au fur et à mesure qu'elle perdure. Selon l'analyste économique Dadi Salé, elle favorise déjà la contrebande et le blanchiment des capitaux dans ces deux villes. Sifamagulu nous en parle.
Pour cet expert, beaucoup de fonds commencent à circuler dans les deux villes sans passer par un circuit bancaire. Il affirme que ce sont les banques du Rwanda qui essayent d'alimenter Goma et Bukavu en liquidité et en devises.
Vous vous souviendrez effectivement que beaucoup de gens ont des comptes à Gisenyi par exemple ou bien à Rubavu et à d'autres endroits et que ce sont les banques du Rwanda qui essaient de renflouer effectivement en termes de dollars et non en francs congolais le marché de Goma et de Bukavu. Sans autorisation de la Banque centrale, ça s'appelle blanchissement déjà des capitaux.
Dadi Salé interpelle les autorités congolaises pour résoudre cette question le plus vite possible avant qu'elle ne détruise toute l'économie locale.
On ne peut pas laisser notre économie être contrôlée par les étrangers, les banques être contrôlées par les étrangers. Voilà les conséquences.
Entre autres pistes de solution, ce professeur en économie appelle Kinshasa à prendre conscience.
Et là, j'ai proposé l'économie des guerres. guerre. Nous devrions faire l'économie des guerres comme une de première solution immédiate.
C'est-à-dire?
L'économie des guerres. Ça peut partir, par exemple, d'une loi financière des guerres qui facilitera tous les Congolais à être capables de produire pour que nous puissions nous battre.
Notez que cette guerre du M23 vient aggraver une situation économique déjà très fragile, déplore le professeur Dadis Ali.
À Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, le corps du musicien Katembo Delphin Idengo, alias Delcat, a été inhumé hier mardi au cimetière de Kibangu. Une foule nombreuse, composée en majorité des jeunes, venus de Butembo, Oicha et d'autres localités, s'est réunie pour lui rendre un dernier hommage. Le musicien, connu pour ses prises de position engagées, a été assassiné le 13 février dernier à Goma. Guylaine Kassassia.
En raison de cette inhumation, plusieurs activités socio-économiques ont été paralysées, notamment au centre commercial de Matonke et sur le boulevard Nyamwisi. Certaines écoles ont également renvoyé les élèves chez eux par mesure de précaution. Lors de l'enterrement à Kibangu, une altercation a éclaté entre un convoi militaire et des jeunes présents sur place. En tentant de s'effrayer un passage, les militaires se sont heurtés à la foule compacte. Des projectiles auraient été lancés par certains jeunes qui auraient puis les forces de l'ordre a tiré en l'air et a lancé des gaz lacrymogènes. Selon des témoins, des tirs ont atteint un jeune homme et une femme qui ont perdu la vie sur place, tandis que plusieurs blessés ont été évacués vers l'hôpital général de référence de Beni. Aucune déclaration officielle n'a encore été faite à ce sujet. Par ailleurs, lors de l'arrivée du corps à Beni, 3 autres personnes ont perdu la vie dans un accident de circulation. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
L'inspection générale de la police affiche désormais complet dans le pays pour veiller au respect des droits humains lors des opérations policières. 10 chefs d'antenne ont reçu des instructions et des consignes pour leur déploiement dans les provinces où cette institution n'était pas représentée. Au cours d'une réunion hier à Kinshasa, le commissaire divisionnaire principal, Patience Omouchi-Diav, a rappelé à ses nouveaux représentants en province les principales missions pour lesquelles ils sont déployés sur le terrain. Pili Ivan Lutumba.
Tout au plus, une semaine est accordée à ces 10 chefs d'antenne provinciale de l'instruction générale pour joindre chacun son nouveau poste. Une fois sur place, voilà les consignes à observer en vue de faire respecter les droits humains.
L'inspection générale et ses antennes, nous avons l'obligation de soutenir le chef de l'État et son gouvernement dans sa vision. Redorer l'image prestigieuse de la police nationale congolaise par notre comportement qui doit être irréprochable, surtout nous les inspecteurs. Éradiquer les actions de violation des droits de l'homme, surtout lorsque nous parlons des arrestations arbitraires et détentions illégales. Torture et traitements cruels et dégradants. C'est tout ce que nous sommes en train de lire aujourd'hui dans les réseaux sociaux à propos des actes que les policiers sont en train de commettre, etc.
Afin de permettre aux nouveaux contrôleurs du travail de la police en province d'exercer de manière efficiente leurs tâches, l'inspecteur général leur a doté du matériel, des bureaux et des textes réglementaires.
L'objectif poursuivi est d'accompagner les autorités provinciales ou locales dans la gestion de l'ordre public. Votre participation à toutes les réunions du comité provincial de sécurité doit être d'une importance capitale.
Ces inspecteurs doivent rejoindre les provinces du Bas-Ouélé, Lomami, Olomami, Kwango, Sud-Ubangi, Sankuru, Chuapa, Nord-Ubangi, Maïndombe et Mongala.
Restons à Kinshasa. Depuis le lundi 24 mars, 2 décrets de la première ministre avec le contre-signe du ministre de la Justice ont été signés après validation en Conseil des ministres. Ces décrets, qui sont la suite logique de la mise en œuvre des résolutions des États généraux de la Justice, portent d'une part sur la création, l'organisation et le fonctionnement de l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires en remplacement de l'inspectorat général et d'autre part sur l'informatisation et la numérisation des services judiciaires des juridictions de commerce. Jeff Ngoy nous parle des innovations qu'apportent ces réformes.
D'abord, il faut noter que ces réformes marquent une volonté d'instaurer la discipline et l'éthique au sein du corps judiciaire et de moderniser l'appareil judiciaire à l'ère du numérique. Concernant la création de l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires, IGSP, en remplacement de l'inspectorat général des services judiciaires de l'ex-conseil judiciaire après 38 ans de l'ordonnance du 23 juin 1987, ce décret met fin à l'ordonnance devenue obsolète, sans moyen d'action efficace et robuste face à l'indiscipline, l'impunité et le corporatisme dans le chef des magistrats. Avec le nouveau décret, aucun magistrat ne saura échapper au contrôle de l'IGSP, dont l'inspecteur général aura le rang de premier président de la Cour de cassation. Quant au décret portant sur la gestion informatisée et numérisée des juridictions de commerce, cette gestion des tribunaux de commerce et des chambres commerciales des cours d'appel permet d'adapter le système judiciaire congolais à l'ère du numérique. Il participe à l'amélioration du climat des affaires et répond aux besoins de célérité qui caractérisent le monde des affaires.
En politique, notez que Désiré Cachemire Eberhand Kolongele, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, poursuit à Kinshasa avec les consultations politiques en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Il a reçu en premier lieu hier, mardi, Jean-Pierre Bemba en qualité de membre du Présidium de l'Union Sacrée. Jean-Pierre Bemba voit dans ces consultations une manière d'assurer la sauvegarde de la souveraineté du pays. Augustin Kabuya, lui, après la rencontre de lundi, est revenu encore hier, rencontré le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Cette fois-ci, il s'est fait accompagner des cadres de l'UDPS. Désiré Cachemire Eberhand Kolongele a aussi reçu la délégation de l'UNC de Vital Kamerhe, conduite par Billy Kambale, secrétaire général du parti. Le résumé des échanges d'hier mardi avec vous, Billy Yvan Lutumba.
Jean-Pierre Bemba, reçu en qualité de membre du Présidium de l'Union Sacrée, affirme que la RDC doit recouvrer par l'implication de tous son intégrité, recouvrer de l'espoir et l'épanouissement aux populations des deux Kivu. C'est l'idéal même de ces consultations, soutient-il.
Nous sommes attaqués. Notre objectif que devrait être de regagner l'ensemble du territoire national.
AAUNC AVK 2018, regroupement proche de Kamerhe, se réclamant deuxième force politique de la majorité, en croit cette main tendue du président de la République. Billy Kambale.
Nous avons formulé nos propositions pour que, à l'issue de ce processus, que nous puissions avoir un gouvernement de guerre qui va mettre fin une fois pour toutes aux aventures du Rwanda.
Un homme résigné, Augustin Kabuya, accompagné des cadres de l'UDPS, admet d'approcher ses pairs de l'Union Sacrée afin de lever tout équivoque en rapport avec les plaintes formulées contre eux.
En politique, il faut éviter des frustrations. Je peux rassurer à mes pairs que j'avais bien capté leur message et dans les jours à venir, je ferai de tout mon mieux pour échanger avec eux. Puis ce qui nous intéresse, nous, au niveau de l'UDPS, c'est cette cohésion-là, cette unité-là.
Signalons que toujours ce même mardi, Kolongele a reçu les plateformes politiques proches de Julien Paluku AB50, FDCA de Baati Loukwebo et AAP avec Kinki Moulumba, Evariste Bouchab et Laurent Batumona.
Dans le territoire de Lubero, Nord Kivu, l'ONG MEDER lance un projet de gratuité des soins de santé pour une durée de 2 mois dans les aires de santé d'Ivatama et Kiamboho. Ces aires de santé situées dans la zone de santé de Moussienene, à environ 30 km au sud de Butembo, ont accueilli des milliers de déplacés, certains fuyant l'avancée des rebelles du 1-23, d'autres les attaques des ADF. Objectif de ce projet, couvrir toutes les maladies afin de répondre aux besoins des populations locales ainsi qu'aux besoins des déplacés installé dans la région depuis plusieurs mois. Guylaine Kassassia.
Ces soins gratuits viennent soulager les souffrances des familles déplacées, mais aussi celles qui les ont accueillies. Ces dernières se retrouvent désormais privées de moyens de subsistance. La guerre persistante les empêche de vaquer librement à leurs activités, notamment l'accès aux champs situés dans les zones des combats, comme l'explique Vianney Kitwamba de la protection civile dans la zone de santé de Moussienene.
Cela vient répondre à la préoccupation de la population parce que ça fait longtemps que plusieurs ménages vulnérables ne suivent pas les soins et la plupart d'ailleurs des déplacés ne se rendaient pas aux soins dépourvus de l'argent, qui ne cesse en tout cas d'accuser plusieurs plaintes relatives aux soins de santé. Comme membres de la communauté, nous devons vraiment accompagner ces projets et nous disons que ces projets soient les bienvenus dans notre milieu, étant donné que ça va alléger la souffrance des milliers de déplacés.
Les deux aires de santé ciblées sont celles qui ont accueilli le plus grand nombre de déplacés, précise Vianney Kitwamba. Il plaide également pour que d'autres aires de santé bénéficient de cette initiative, car elles font face aux mêmes besoins. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Des consultations gratuites aussi pour les troubles émotionnels et psychologiques au centre de santé mentale de Tuliso Leto à Goma. Hier mardi, c'était le deuxième jour de cette campagne. Accessible à toute la population de Goma et ses environs, ces consultations consultations vont durer un mois. Dès le lancement de ces consultations, l'afflux des patients a été impressionnant, disent les responsables de ces centres hospitaliers. Ils affirment que la plupart des patients présentent les symptômes de difficulté de se concentrer, des épisodes de panique, la perte d'appétit, la fatigue chronique et des hallucinations auditives. Des signes qui, selon la direction du centre, seraient consécutifs au stress post-traumatique associé à des expériences de guerre vécues de manière directe ou indirecte.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, dissolution de l'association des journalistes par les autorités du pays. Le ministre de l'administration territoriale, Émile Zerbo, a justifié cette décision en évoquant la non-conformité de l'association des journalistes de Burkina Faso, AJB, aux exigences de la loi de 2015 sur les associations. Le gouvernement la considère comme dissoute depuis 2019. Lundi, Gezouma Sanogo et Bukari Ouoba, respectivement président et vice-président de l'AJB, étaient en menés par des hommes se présentant comme des agents de renseignement burkinabé après des déclarations critiques sur les atteintes à la liberté d'expression jamais égalées depuis le putsch du capitaine Ibrahim Traoré.
L'invité.
Docteur Daniel Okitundu, médecin directeur du Centre neuropsychopathologique de CNPP de Kinshasa, CNPP, est notre invité. Il profite de la célébration des 50 ans d'existence du CNPP pour en dresser un état des lieux. Il souligne les avancées médicales de l'institution tout en abordant les défis persistants qui continuent d'interpeller les secteurs de la santé mentale en RDC. Docteur Daniel Okitundu s'entretient avec Mudumbi Benjamin.
Docteur Okitundu, bonjour.
Bonjour.
50 ans après, quel bilan?
Le CNPP, qui est une institution de soins de santé du cerveau et de santé mentale, après 50 ans, a réalisé des choses positives, notamment en ce qui concerne la formation du personnel dans le domaine de la santé mentale et de la santé du cerveau. On compte à peu près 152 médecins formés en 50 ans dans le domaine de la santé mentale et du cerveau, avec plus de 20 professeurs dans le domaine de la neurologie et de la psychiatrie. Pour répondre aux besoins du centre, nous avions introduit une filière de formation à l'ISTEM, la formation des infirmiers en neuropsychiatrie. Actuellement, ce n'est plus la formation des infirmiers en neuropsychiatrie, mais c'est la formation des techniciens en santé mentale. Le CNPP contribue à la formation de ces agents-là à l'ISTEM.
Docteur Okitundu, que dire en ce qui concerne les infrastructures du CNPP 50 ans après?
Du point de vue des infrastructures, ce qui est négatif, parce que le CNPP c'est un grand projet. On devait avoir en plus des services de psychiatrie générale, de neurologie générale, le service de psychiatrie pour les enfants, de neurologie pour les enfants, le service de soins de santé mentale pour les policiers et militaires. Tous ces services n'ont pas encore été construits et je pense que le moment est arrivé, étant donné les besoins de la nation, que ces services soient construits au CNPP. Nous avons connu des difficultés, nous soignant les personnes qui sont vulnérables et n'ayant pas de moyens. On a connu une dégradation importante de notre infrastructure. Et heureusement, nous avons décidé, à l'occasion de la célébration du cinquantenaire, le CNPP est né avec une nouvelle peau et vous avez pu constater la réhabilitation des infrastructures qui est en cours.
Comment le centre a-t-il contribué à la prise en charge des troubles neuropsychologiques en RDC?
Ce qui est beaucoup plus important à mentionner, chaque fois qu'il y a une menace sécuritaire, c'est au CNPP qu'on amène toutes ces personnes en errance, qu'on ramasse dans la rue pour soins. Et le CNPP est toujours sollicité chaque fois qu'il y a menace sécuritaire pour faire l'expertise en santé mentale de personnes qui sont mises en cause, à la police, à la DEMIA, tout ça. Et là, notre contribution est énorme. Et puis, nous voulons insister, la contribution du CNPP par rapport à la prise en charge de problèmes de santé mentale. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la charge cachée et indéterminée, le problème de santé mentale, qui ont un poids personnel, un poids social et un poids économique important.
Quels sont les services offerts aujourd'hui
par le CNPP et comment se distingue-t-il de ses proposés à ses débuts?
Au début, on a commencé par le service de consultation externe et après, on a installé le service d'hospitalisation. Il y a le service d'hospitalisation de neurologie et le service d'hospitalisation de psychiatrie. Au départ, il n'y avait pas un service d'hospitalisation ou de soins pour les enfants. Aujourd'hui, nous avons un service d'hospitalisation et des soins pour les enfants qui ont des problèmes de santé mentale et nous sommes en train d'installer un service de soins et d'hospitalisation pour les enfants qui ont des maladies du cerveau et des maladies des nerfs. Dans la logique actuelle de la rénovation, nous sommes en train de mettre en place des services spécialisés, notamment une unité de soins pour les troubles du sommeil et les problèmes de crise épileptique. On va mettre une unité de soins pour les personnes qui consomment alcool, tabac et autres drogues. On va mettre une unité de soins mère-enfant. Vous voyez la folie de la femme après accouchement. Ces femmes-là ont besoin d'être hospitalisées sans être séparées de leur bébé. Nous sommes en train de chercher à rénover le CNPP et nous aurons des équipements que nous n'avons pas eu auparavant, les équipements de neuro-imagerie. Donc nous sommes en train de progresser et avec notre plan quinquennal, d'ici 2028, le CNPP aura totalement un nouveau visage.
Docteur Kitundu, je vous remercie.
Merci beaucoup.